Radio Prague, les informations.
Le gouvernement tchèque accorde 1 milliard de couronnes pour la réhabilitation de maisons d'habitation. Une collision entre un train et un camion à Moravie du Nord. La police a découvert un laboratoire de fabrication de drogues synthétiques. Le gouvernement tchèque accordera 1 milliard de couronnes, quelque 40 millions d'euros, au fonds d'État du logement destiné à subventionner la réhabilitation des maisons d'habitation. Une déclaration du Premier ministre tchèque Petr Nečas. Le programme de subvention pour ce genre de réparation, appelé le nouveau panel, pourra donc recevoir probablement de nouveau les demandes de subvention de la part de propriétaires de maisons et de logements. Une collision entre un train tchèque et un camion polonais s'est produite dans l'après-midi de ce mercredi, près de la ville d'Opava, à Moravie du Nord. 25 personnes ont été blessées, mais dans la majorité des cas, leurs blessures sont sans gravité. Parmi les blessés, il y a aussi le chef du train. Au moment de la collision, il y avait dans le train quelque 120 passagers. 4 unités de sapeurs-pompiers sont intervenues sur le lieu de l'accident. La police a découvert dans la ville de Český Těšín un important laboratoire de fabrication de drogues synthétiques qui approvisionne probablement tout le réseau de magasins Amsterdam Shop en Moravie du Nord. Jusqu'à présent, la police pensait que les drogues synthétiques vendues en République tchèque étaient fabriquées en Pologne. Pour l'instant, les drogues synthétiques ne sont pas interdites en République tchèque, mais une loi les interdisant a déjà été soumise à la Chambre des députés. Un stock de matière plastique a pris feu dans la station thermale de Bohdaneč, près de la ville de Pardubice, à une centaine de kilomètres à l'est de Prague. Le stock appartient à la société Transform. Le terrain où se trouve le stock est situé non loin d'un quartier résidentiel. Les dégâts provoqués par l'incendie sont évalués à 8 millions de couronnes, quelque 320 000 euros. La catastrophe ayant frappé le Japon réduira considérablement le nombre de touristes japonais en République tchèque. Une déclaration de Jan Otava de l'agence Tchèque Tourisme. Cette année, le nombre de touristes japonais qui voyageront à l'étranger baissera au total de 21%. L'année dernière, 16,7 millions de touristes japonais se sont rendus à l'étranger. La République tchèque a accueilli plus de 130 000 touristes venant de ce pays. La photo intitulée « La vague », œuvre du célèbre photographe tchèque František Drtikol, ayant été récemment volée du Musée des Arts et Métiers à Prague, a été restituée à cette institution. La photo a été mise en vente en Californie. C'est grâce à l'homme d'affaires américain Joseph Bellow que la photo a été retrouvée. Météo. Ce mercredi, jour de fête des Arnošt, le temps a été ensoleillé et les températures se sont situées entre 14 et 18 degrés pour les maximales. Malgré un rafraîchissement prévu pour jeudi et vendredi, les météorologues prévoient jusqu'à 23 degrés pour le week-end à venir. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter. Et nous cédons le micro à Magdalena Hrozinková.
Faits et événements en République tchèque.
Bienvenue à l'écoute de Radio Prague et merci à Václav Richter pour ce bulletin d'information. Le lycée des métiers et des arts verriers de Kamenický-Chenov, le plus ancien du genre en Europe, a été menacé de fermeture. Le ministère de l'Éducation nationale a décidé de prendre en charge son financement. Il pourrait également sauver 5 autres lycées dédiés aux métiers rares et anciens. Nous parlerons aussi de la plateforme de la danse tchèque, un festival qui se prépare dans la capitale. Il risque de manquer à la municipalité de Liberec, en Bohême du Nord, plus de 520 millions de couronnes pour le financement des écoles de la région au cours de la période 2011-2014. Pour remédier à cette situation, les autorités régionales préparent depuis plusieurs mois une réorganisation qui devrait toucher 2 établissements scolaires sur 3. Cette réforme soulève des protestations, notamment au sein du lycée des métiers et des arts verriers de Kamenický-Chenov, une commune de 4000 habitants située à proximité de la ville de Česká Lípa. Fondée il y a 150 ans, dans cette région réputée pour sa tradition verrière, le lycée de Kamenický-Chenov, qui ne compte actuellement qu'une soixantaine d'élèves et une vingtaine d'enseignants auraient dû fusionner dès la rentrée 2011 avec le lycée professionnel de la ville voisine de Novi Bor. Un projet que les professeurs et les élèves ont rejeté. La directrice du lycée de Kamenický-Šenov, Marie Kroniakova, a expliqué à Radio Prague pourquoi.
Ce qui nous gêne, c'est que le lycée de Novi Bor n'est pas une école artistique, c'est un lycée professionnel. Les spécialisations qui sont enseignées chez nous risqueraient de disparaître, car depuis 2 ans, le lycée de Novi Bor n'a pas ouvert de département spécialisé dans les métiers des arts verriers. L'année prochaine, il n'y aura qu'une seule classe dédiée au verre. En plus, notre école est la seule dans le pays à proposer une formation en design d'objets lumineux. Nous collaborons avec l'entreprise Preciosa Lustre qui fabrique des lustres et où sont employés de nombreux anciens élèves de notre école. À Novi Bor, nous ne pourrions plus assurer cet enseignement.
Depuis plusieurs années, le secteur de la fabrication de verre traverse une crise en République tchèque. Marie Kroniakova est persuadée que cette situation ne décourage pas les adeptes des métiers des arts verriers.
Toutes les écoles souffrent de manque d'élèves. C'est une tendance générale. Nous avons très peu d'anciens diplômés qui ont des difficultés à trouver du travail. Actuellement, ils sont 4. L'avantage de notre enseignement est que nos diplômés peuvent également faire valoir leurs capacités dans d'autres domaines des arts plastiques et qu'ils apprennent aussi à travailler manuellement.
Mardi dernier, le ministre de l'Éducation nationale, Joseph Dobesch, a proposé à la région de Liberec de prendre en charge le financement du lycée des métiers des arts verriers de Kamenický-Šenov. De même, il envisage d'apporter un soutien financier à d'autres lycées spécialisés, par exemple en pisciculture, en viticulture ou en fabrication d'instruments de musique. Joseph Dobesch.
Il faut sauver ces écoles qui font partie du patrimoine national. Je pense que c'est la tâche de l'État. Il n'y en a pas plus de 5 dans tout le pays et je suis prêt à trouver dans le budget du ministère des moyens pour leur financement.
La réorganisation des écoles de la région de Liberec continue tout de même à chauffer les esprits. Mardi, plusieurs dizaines de personnes ont essayé en vain d'assister à la réunion du conseil régional qui devait l'adopter. Le vote a finalement été reporté au mois d'avril. Du 7 au 12 avril se déroule la plateforme de la danse tchèque, événement organisé depuis déjà 17 ans par Ivona Kreutzmanova qui œuvre pour la promotion de la danse contemporaine en République tchèque avec passion et pugnacité. Elle est aussi à l'origine d'un festival, Tanec Praha, qui cette année aura lieu du 6 au 29 juin et donc nous aurons l'occasion d'en reparler. Anna Kubeshta s'est entretenue avec Ivona Kreutzmanova et lui a demandé de faire un petit bilan de ses 17 ans de plateforme de la danse tchèque.
Oui, en tout cas, on a fait un progrès énorme en comparaison avec les années 90, quand on a eu vraiment la petite scène de la danse contemporaine qui était un peu amateur, pas tellement au niveau professionnel. Le développement était énormément vite et je vois maintenant, on a eu une quarantaine d'œuvres qui ont voulu se présenter à la plateforme. C'est énorme.
Le choix était difficile.
Ah oui, le choix était très difficile. C'est vrai que on a voulu montrer pas seulement la qualité, parce que la qualité des danseurs tchèques est vraiment forte, mais aussi la diversité et l'accès différent des chorégraphes qui s'inspirent dans le monde du théâtre, de la musique, des arts visuels. Alors c'est vraiment très très riche.
Alors est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire quels sont les quelques spectacles qu'on pourrait retenir justement de cette 17e édition auquel il faut aller?
De mon avis, c'est très difficile à donner la priorité à quelqu'un. Bien sûr, je suis ravie qu'on ait réussi à avoir la Farm in Cave, Farma Veskin, et c'est la compagnie qui travaille avec le metteur en scène plutôt que chorégraphe William de Cholomansky, qui vient de recevoir le prix prestigieux de l'Europe, le prix qui s'appelle New Theatrical Realities, et il va le recevoir maintenant en avril à Saint-Pétersbourg. Alors c'est lui qui sera présenté, mais aussi les nouvelles œuvres de Lenka Wagnerova ou bien Kateřina Stupecka, Jarek Cemerek et d'autres chorégraphes tchèques. C'est très promissant.
Dans ce cadre, vous organisez également donc un programme annexe. Il y a des conférences, des débats, notamment en collaboration avec CESTA, c'est donc les rencontres de la danse contemporaine. Et les auditeurs connaissent justement Marie Kinski qui a récemment été interviewée sur Radio Prague. Comment se passe cette collaboration exactement et qu'est-ce qui sera au programme de ces débats?
Bon, l'esprit de la plateforme de la danse tchèque est très ouvert. Alors, on a voulu vraiment inviter à coopérer tous les partenaires qui veulent le faire. On fait pour les invités étrangers la visite des écoles différentes. On fait la visite de la ville de Pilsen, qui sera la capitale européenne de la culture 2015. On fait sûrement la coopération avec CESTA au niveau d'analyse de ça qu'on a vu le jour avant. Et ce sont les 2 heures des débats très profonds avec les personnalités, les grands experts qui sont invités par CESTA. On fait aussi les séminaires autour de light design. Alors il y a la réunion des éclairagistes, des artistes qui veulent vraiment bouger un peu aussi ce métier ici en Tchéquie. Et il y a plusieurs, il y a la réunion avec des artistes, alors beaucoup d'occasions de se rencontrer.
C'était Ivona Kreutzmanova sur Radio Prague. L'histoire du timbre-poste est le thème de cette nouvelle édition des chapitres de l'histoire, une histoire presque aussi longue que celle de la Tchécoslovaquie. Le premier timbre postal avec le panorama du château de Prague, signé du fameux peintre Alphonse Mucha, a été émis le 18 décembre 1918. Le même jour, le musée postal a ouvert à Prague. Son siège actuel, la maison Bavra, pas loin de la place de la République, abrite dans ses collections plus d'un million d'objets dont des raretés comme le premier timbre poste du monde, Penny Black de 1840 avec l'effigie de la reine du Royaume-Uni Victoria. Yarka Gusublova a invité au micro le directeur du musée Jan Galuszka.
Chapitre de l'histoire.
Le caractère particulier de la poste est dû au fait qu'elle a toujours relié les hommes. Pendant des siècles, la poste était le premier moyen de communication entre les hommes et entre les nations. Depuis le XVIe siècle, la poste est le principal moyen de transport. Il n'existe aucune autre institution permettant aux hommes de se déplacer d'un coin de l'Europe à l'autre. Les postillons, les diligences, servait à transmettre des messages, transporter des marchandises ainsi que des personnes. La poste fonctionne de cette manière jusqu'au XIXe siècle où ce rôle est assumé par les chemins de fer. L'âge d'or des postillons trouve son expression dans les arts, la littérature, la musique. Il suffit de se rappeler du célèbre opéra comique français « Le postillon de Longjumeau ».
Au cours de plus de 90 ans d'existence, le musée postal a déménagé plusieurs fois. Son siège actuel, la maison Vavra, sur le quai de la Vltava, ayant appartenu au meunier pragois, est un palais baroque du XVIIe siècle inscrit comme l'ensemble du noyau historique de Prague sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Sur une surface de 760 mètres carrés, il concentre des ensembles représentatifs de timbres réunis par 4 générations de passionnés. Jan Galuszka évoque les débuts.
Les premières collections du musée s'ouvrent au public en 1928. Le directeur du musée est alors le poète décadent Jiří Karásek de Lvovice. Les locaux gothiques du Karolinum, qui abritent ses collections, se montrent insuffisants et un autre endroit est recherché. Le choix tombe sur le complexe du couvent Saint-Gabriel dans le quartier de Smíchov. En juillet 1919, ces locaux sont rachetés en faveur de la poste par le ministre des Finances, Alois Rašín, une des personnalités marquantes du 28 octobre.
Interrompu par les accords de Munich et par l'occupation de la Tchécoslovaquie en 1939, les activités du musée postal reprennent en 1945, mais pas pour longtemps. Le coup d'État communiste implique une mise en sourdine d'une institution documentant la période de l'Autriche-Hongrie et de la Première République démocratique de Masaryk. Ce qui nous sauve, ce sont les timbres-postes, observe Jan Galuška. Collectionner et documenter la création de timbres-postes devient la principale mission du musée. Dans les années 1960, qui sont des années de dégel politique relatif, le musée élargit ses activités et ouvre sa succursale au couvent des Cisterciens à Vichy-Brod, en Bohême du Sud. L'histoire des postes depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, y compris l'histoire du télégraphe et du téléphone, y est présentée sur une surface de 1800 mètres carrés, raconte notre guide.
Nous exposons des uniformes historiques, des boîtes postales, des enseignes de poste, des caisses, des appareils de télégraphe et des téléphones historiques. Nous possédons une collection unique de calèches, de diligences et de traîneaux dont le service postal se servait au milieu du 19e siècle. Le plus rare est un carrosse de luxe, type Landauer, jadis une propriété de la famille Wallenstein qui faisait partie du cortège nuptial de la reine Victoria à Londres.
Sir Roland Hill est considéré comme une personnalité importante de l'histoire postale pour avoir émis le 6 mai 1840 le célèbre Penny noir à l'effigie de la reine Victoria. Sur le territoire tchèque, les timbres postaux sont utilisés depuis le 1er juin 1850. La poste autrichienne a alors émis 5 séries de timbres de valeurs différentes, les frais de port dépendant de la distance entre l'expéditeur et le destinataire. La validité des timbres d'Autriche-Hongrie est arrivée à terme en février 1919. Le premier timbre poste de la République tchécoslovaque avec le panorama de Hradčany, signé d'Alphonse Mucha, a vu le jour le 18 décembre 1918. Le musée postal, qui a ouvert en 1988 au Palais Vavra, abrite plus d'un million d'objets, dont en premier lieu des timbres.
Nous présentons la collection intégrale des timbres-postes de la République tchécoslovaque. Nous montrons aux visiteurs des raretés, des objets uniques, ainsi que des précurseurs des premiers timbres, comme par exemple les timbres des légionnaires tchécoslovaques. Dans les années 1920, en effet, la Tchécoslovaquie a émis des timbres postes commémorant le serment des légionnaires de la compagnie Nazdar à Bayonne, ainsi que les batailles d'Arras et de Vouziers auxquelles nos soldats avaient participé lors de la Grande Guerre. Nous possédons une brillante collection de timbres de pays européens qui documentent les débuts de l'émission de timbres en Europe, depuis la mise en vente en 1840 en Angleterre du premier timbre poste au monde.
L'une des plus grandes raretés du musée postal de Prague, le bloc de 80 spécimens des premiers timbres du monde destinés à l'affranchissement des journaux, les dits « Mercure bleu ». Ces timbres non attelés ne sont exposés qu'à des occasions exceptionnelles, comme ce fut le cas à l'exposition mondiale des timbres postes Praga 2008 ou encore en 2005 à l'exposition des raretés à Monaco. Comme l'explique Jan Galuška, la République tchèque est l'un des 14 membres institutionnels du club de l'élite qui a son siège à Monte-Carlo et où les collectionneurs sont invités à présenter des raretés philatéliques majeures. Alena Reichlova, chef de la section des timbres tchèques et étrangers, nous présente de plus près cette rareté que le mercure bleu.
Ce sont les premiers timbres pour journaux émis au monde en 1851 à l'effigie de Mercure, dieu des Romains, au casque ailé. Et pourquoi Mercure? C'est parce qu'il est le symbole des postes en tant que messager de Zeus et on lui attribue aussi la protection des postiers, des commerçants, des voyageurs. Ces premiers timbres ont été destinés à l'affranchissement des journaux. Le destinataire les a collés soit directement sur les journaux, soit sur une bande de papier indiquant son adresse.
Une fierté du musée postal qui a son siège à la maison Vavra, les salons au premier étage ornés de fresques du peintre Joseph Navratil. Le style de ces fresques, créé en 1847, est un style du romantisme historisant avec des éléments du dit Zugon Rococo. Le salon de théâtre est orné de scènes, des légendes tchèques. D'autres fresques évoquent des coins romantiques rencontrés par le peintre lors de ses voyages dans les Alpes autrichiennes, en Italie et en Suisse, détaille notre guide.
La maison Vavra est classée au patrimoine culturel en premier lieu pour sa décoration de salon par les fresques de Joseph Navratil. Des historiens d'art apprécient hautement le caractère unique et la valeur de ses intérieurs, comptant parmi les plus intéressants du genre qui se soient sauvegardés à Prague. En dehors du musée postal, les fresques de Joseph Navratil décore l'intérieur du couvent des chevaliers à la Croix-Rouge, interdit au public avant 1989, puisqu'étant le siège de la STB, et on les trouve aussi dans les châteaux de Jirny et Zákupy.
Ces derniers temps, les émissions de Nouveau Timbre ne cherchent pas seulement à faire plaisir aux philatélistes, mais elles font un pas vers le grand public. En 2010, la Poste tchèque a procédé à une petite révolution dans l'affranchissement des lettres en introduisant des timbres autocollants et en remplaçant les chiffres indiquant la valeur par une lettre de l'alphabet. Explication avec Jan Galuška.
En 2010, ont paru les carnets de timbres ayant pour thème les petits héros d'une bande dessinée tchèque très populaire, Stichlistek de Jaroslav Němeček. Ces timbres indiqués par la lettre A sont destinés à l'affranchissement du courrier en République tchèque et nous espérons qu'ils attireront de nouveaux philatélistes parmi les jeunes. La même année, la Poste a mis en vente les timbres destinés à l'étranger. Au lieu du prix du timbre de 10 ou 20 couronnes indiqué sur un timbre classique, il y a la lettre E pour le courrier envoyé en Europe et le symbole Z sur les timbres destinés aux autres pays du monde et cette production continuera.
Depuis ce mardi est mise en vente la série complète des timbres postaux au motif des héros de la bande dessinée Stichlistek. Et pour ce qui est du courrier envoyé en Europe et dans d'autres pays du monde, la plus appréciée est la série Zodiac d'Alphonse Mucha et celle de ses affiches dont la plus célèbre, Gismonde, créée sur commande de Sarah Bernard. Par son émission, la Poste tchèque a rendu hommage au 150e anniversaire de la naissance de l'artiste.
C'est donc par une visite du musée postal de Prague que s'achève le programme de Radio Prague en langue française. Magdalena Hrozinková au micro vous remercie de votre attention.